Bonjour, nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est à la technique, merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités et des documents de fond ainsi que des pages historiques, culturelles ou sportives. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma, le sponsor de l'OM. Honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS. Boycott, désinvestissement, sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. À ce sujet, dimanche dernier, BDS était de nouveau au Vélodrome à l'occasion du match OM-OGC Nice pour appeler à boycotter Puma jusqu'à ce que la marque de sport laisse tomber le football de l'apartheid. BDS demande encore et encore, notamment aux supporters, de boycotter Puma. Plus d'infos sur www.bdsfrance.org. Sur notre site, dans la rubrique Agenda, vous trouverez les dates et les lieux des actions à venir à Marseille, à Martigues et dans notre département autour de la question palestinienne, qu'il s'agisse de films, de rencontres ou d'autres événements. Je vous rappelle l'adresse www.assopalestine13.org et la page Facebook Palestine 13. Prochain rendez-vous, dimanche le 12 février, pour la route du Zaatar, à l'occasion de l'événement de la mairie du 1er et du 7e, au bout de la mer, Cirque. Un stand route du Zaatar sera installé sur le parvis de l'hôtel de ville, au Vieux-Port, de 9h à 17h. Vous pourrez y retrouver des spécialités et l'artisanat de Palestine. Autre rendez-vous, samedi 25 février à 17h, à la librairie Maupetit, pour la rencontre avec Sylvain Sipel à l'occasion de son dernier livre « L'État d'Israël contre les Juifs ». Imagine-t-on en France une loi qui établirait deux catégories de citoyens ? Par exemple, les Français de souche et les autres qui ne bénéficieraient pas de droits égaux. Une loi ségrégationniste de ce type, le Parlement israélien l'a votée en 2018 au bénéfice des seuls citoyens juifs. Cette rencontre sera animée par Pierre Stamboul. On retrouve maintenant notre invité. Aujourd'hui, c'est Bertrand Helbron, le président depuis 2017 de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, dont Palestine 13 est la branche locale. Bonjour Bertrand Helbron.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs ?
Écoutez, je m'appelle Bertrand Helbron, j'habite dans la région parisienne, au sud de Paris. Je suis marié, j'ai des enfants qui sont maintenant grands, qui ont eux-mêmes des enfants. De métier, je suis ingénieur. Je pourrais vous dire que, effectivement, je suis président de l'AFPS depuis 2017. Hein, c'est des mandats de 3 ans qui sont donnés par le Congrès, dans un nouveau Congrès à la fin de cette année. Mon engagement avant était bien sûr dans mon groupe local qui s'appelle Évry Palestine, où j'ai beaucoup milité avant de me tourner vers les instances nationales, où j'ai commencé d'ailleurs en 2013 au Bureau national pour les actions européennes.
D'accord. Et justement, à quand remonte votre engagement pour la Palestine ?
Alors, comme tout un chacun, je pense que c'est par phase, c'est par moment, on a des hésitations, on a besoin de se conforter, c'est par la rencontre de personnes aussi. Et donc, je commençais à m'y intéresser vraiment dans les années 90, et notamment après Oslo, comme beaucoup de gens, hein, j'avais l'espoir qu'on puisse arriver à la paix. Bon, on en reparlera éventuellement, hein, c'était bien sûr quelque chose d'assez illusoire à l'époque. Et je peux dire que j'étais un militant un peu distant, je n'en faisais pas tant que ça, jusqu'au jour où notre ville, hein, qui était les villes nouvelles d'Évry-Courcouronne à l'époque, a conclu un jumelage avec le camp de réfugiés de Khan Younis dans la bande de Gaza. Et je me suis retrouvé comme... je suis moi-même ingénieur dans le domaine de l'électricité, qu'ils avaient des problèmes d'électricité sur le camp, bah, débarqué un beau jour de l'an 2000 avec des collègues d'Électriciens sans frontières pour essayer d'évaluer avec eux ce qu'il y avait à faire. Et là, ce que j'ai découvert, je crois que le choc, c'est à quel point ce sont des personnes comme vous et moi qui se trouvent plongées dans une injustice absolument incroyable par... à la fois des circonstances historiques, mais aussi la lâcheté, l'indifférence qu'il y a dans le monde, et à quel point finalement, bah, eux et moi, nous sommes pareils, et ils subissent une situation qui n'est juste pas acceptable. Et donc, à partir de là, je crois que j'ai eu envie de plus en plus de m'engager, à la fois d'abord à travers des projets, et puis petit à petit... à travers l'action qu'on a menée dans notre groupe local. J'ai présidé notre groupe local avant de me tourner vers la FPS au niveau national. Donc je crois que je dirais un peu comme chacun d'entre nous, l'engagement, il se conforte par des rencontres, et par des voyages sur place, par des rencontres, par tout d'un coup l'évidence que oui, c'est juste pas acceptable et qu'on ne peut pas laisser faire.
Et à quand remonte votre premier voyage en Palestine, justement ?
Ben, c'était cette date-là. Donc, mon premier voyage en Palestine, ça a été pour aller dans la bande de Gaza, dans une mission qui était une mission d'évaluation de ce qu'on pouvait faire. Ça devait être au début de l'année 2000. La bande de Gaza n'était pas sous blocus. Il y avait quand même un poste de contrôle qui était assez pénible, mais qui était très bricolé. Et puis, nos amis nous attendaient à quelques centaines de mètres. On les voyait presque de là où on était au poste de contrôle. Donc, ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur votre rôle au sein de l'AFPS ?
Bah, écoutez, l'AFPS, c'est une organisation démocratique, donc qui fonctionne collectivement. Donc déjà, elle est à la fois nationale et locale, donc il y a 95 groupes locaux, comme Palestine 13, hein, pas tous aussi gros, aussi importants que Palestine 13, mais quand même beaucoup, qui sont tous d'ailleurs des associations à part entière, qui ont leur propre action et leur propre programme d'action, en lien avec la nationale. Et donc au niveau national, on anime, on joue tout notre rôle au niveau que doit avoir une association au niveau national. Et également, on prépare toutes les campagnes qu'on a proposées aux groupes locaux. Tout cela, ça se fait d'abord par un conseil national qui est élu par le Congrès tous les 3 ans, donc 50 personnes qui sont très actives à travers des groupes de travail qui se réunissent maintenant très régulièrement sur différents thèmes, hein, la résistance populaire, les réfugiés, les prisonniers et bien d'autres. Et un bureau national qui est actuellement de 8 membres et où on travaille, là je dirais, encore plus intensivement parce qu'il faut qu'on réponde à toutes les sollicitations et tout ce qui se passe et qu'on gère aussi la communication au niveau national par rapport aux événements qui se passent en ce moment qui sont particulièrement dramatiques.
Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la FPS, quelles sont ses missions ?
La mission de la FPS, bon, dans sa charte, hein, c'est d'œuvrer pour la défense des droits du peuple palestinien et pour une paix durable fondée sur le droit international. Et donc, par rapport à ça, ben, c'est faire connaître la Palestine, comme vous le faites, hein, d'ailleurs, vous disiez, c'est de faire connaître, de défendre les droits des Palestiniens. Je crois que ce qui est caractéristique un petit peu de la FPS, ben, il y a deux, trois points qui sont caractéristiques. D'abord, c'est que on est à la fois dans la rue, et aussi on intervient auprès des autorités publiques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas abandonner le terrain, on ne veut pas abandonner le terrain d'aller dire au ministère des Affaires étrangères, voire même parfois à l'Élysée, ce qu'on pense et ce qu'on considère que, et de défendre un certain nombre de cas et d'un certain nombre de choses qu'on leur demande. Mais en même temps, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une pression au niveau de notre action que l'on mène dans la rue et sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est un petit peu les deux aspects de notre action. Ce qui est très important aussi au niveau de la FPS, c'est que nous ne travaillons pas seuls, que nous travaillons dans plusieurs cadres collectifs, hein, avec le collectif national pour une paix juste et durable. On va retrouver des partis politiques et des syndicats, et des très grands syndicats comme la CGT sont vraiment engagés, hein, pour la Palestine. CGT, Solidaires, FSU, et on retrouve la CFDT dans un certain nombre de campagnes aussi. Et des partis politiques, des associations comme la Ligue des droits de l'homme ou le MRAP qu'on va retrouver dans nos organisations collectives. Et puis une plateforme des ONG pour la Palestine qui a été fondée dans les années 90, où on va retrouver donc des grandes ONG dont l'objectif principal n'est pas la Palestine. Si on prend le CCFD Terre Solidaire, si on prend la CIMAD, si on prend Amnesty qui est membre associé, si on prend Secours catholique, Première Urgence internationale, la Fédération sportive et gymnique du travail, tout ça c'est des organisations qui n'ont pas que la Palestine à leur ordre du jour, mais qui en fait ont une action qui est extrêmement importante, à la fois, et qui n'est pas qu'humanitaire, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'à travers leur action sur le terrain, je pense à Première Urgence internationale, qui par exemple a pu travailler sur la sécurité alimentaire, ils ont aussi une réflexion politique qui est de dire, attendez, là on essaie de réparer ce qui est lié en fait à des situations qui sont complètement incroyables et insupportables. Et le fait de travailler ensemble, au niveau de la FPS, nous présidons la plateforme, par exemple, et nous essayons de donner le maximum de références pour, effectivement, qu'on se retrouve tous ensemble dans des combats communs. Et nous sommes aussi assez actifs au niveau européen, à travers une coordination européenne. Donc, c'est un peu ça, si vous voulez, la FPS, c'est qu'à la fois, on est très attaché au travail de terrain, au lien avec les uns et les autres. Et donc ça se fait beaucoup par du travail quotidien des groupes locaux. Mais ces groupes locaux, ils utilisent tout ce qu'on essaye de faire comme matériel de campagne, comme réflexion préalable sur toutes les campagnes qu'on a à mener. Et puis, en même temps, ben, nous travaillons vis-à-vis des autorités publiques. Nous essayons aussi de mobiliser les députés avec nous, les députés et sénateurs. Il y a beaucoup de maires aussi qui sont très engagés pour la Palestine. Et nous travaillons avec des organisations, des grandes organisations qui ne sont pas uniquement sur la Palestine.
Très bien. Alors, comme chaque invité, vous nous avez suggéré deux musiques et nous allons écouter la première chanson de Dominique Grange, « Détruisons le mur ».
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation. Halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère. Mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit, résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah. Chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela. Comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vaincra, Palestine vaincra.
Merci pour ce titre, toujours de circonstances. Au vu de l'actualité, qu'est-ce qui vous semble primordial ?
se passe en ce moment on est devant un gouvernement israélien aujourd'hui qui est d'extrême droite. Ça veut dire que par rapport aux ministres qui sont actuellement au pouvoir dans ce gouvernement, l'extrême droite française paraîtrait comme complètement centriste. C'est à cela que le Premier ministre a confié le développement des colonies et même la gestion de l'occupation militaire contre les Palestiniens. Déjà, toute l'année dernière, la situation était extrêmement grave. Donc c'est vrai que ce n'est pas complètement dépendant des gouvernements. Ça veut dire qu'en fait, c'est une politique constante du gouvernement israélien. Donc je crois que la gravité de la menace contre les Palestiniens est quelque chose... Bon, il y a eu 220 morts l'année dernière. Il y en a déjà 34 depuis le début de l'année. 5 rien que dans la journée d'hier. Les Palestiniens sont soumis à des attaques incessantes de l'armée des colons. Les menaces de destruction de maisons sont constantes, les déplacements de population aussi, comme à Massafariata. Il a failli y avoir ces jours-ci, bon, ça a l'air d'être remis, mais on ne sait pas pour combien de temps, la destruction d'un immeuble qui abrite 100 personnes à Silouane, juste dans ce quartier de Jérusalem, au pied de la vieille ville. Donc il y a une... Et bien sûr, Gaza et la question des réfugiés qui n'est absolument pas réglée. Donc quand on regarde ça, il y a effectivement une situation d'oppression qui est absolument tous azimuts. Il est important d'en comprendre l'origine, d'en comprendre les mécanismes. Je crois que la réflexion qu'on a depuis maintenant un certain temps sur l'apartheid que subit le peuple israélien, c'est-à-dire un crime contre l'humanité défini par l'ONU, qui correspond en fait à un régime d'oppression systématique qui atteint la population palestinienne dans son ensemble, dans ses différentes composantes. Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc, ce qui est particulièrement grave en ce moment, c'est la menace que subissent les Palestiniens et le manque de protection. Je ne parle même pas de perspective politique. Et là, l'exigence d'une protection du peuple palestinien par la communauté internationale doit être absolument portée en ce moment parce qu'ils sont sous une menace vraiment dramatique. C'est peut-être le point qui est point primordial si vous me demandiez de parler d'un point. Sans ça, ben, si vous voulez, c'est aussi tragique pour les réfugiés palestiniens, notamment ceux du Liban qui subissent les effets conjugués de la crise économique libanaise et de leur situation de réfugiés. Pour évidemment les Palestiniens de Gaza qui sont sous un blocus inhumain depuis bientôt 16 ans, ce qui est une punition collective qui est strictement interdite par le droit international. Et il s'agit de la part d'Israël de détruire un peuple, de détruire ses structures, de détruire son économie la progression de la colonisation qui est quelque chose de particulièrement grave. Alors, par rapport à ça, nous avons plusieurs campagnes. Bon, nous avons la campagne un petit peu constante pour dénoncer l'apartheid israélien, faire comprendre qu'il doit être reconnu par les gouvernements du monde entier pour être combattu et éliminé. Mais nous avons aussi une campagne qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, avec donc vous savez que le gouvernement israélien a mis dans ses premiers objectifs le développement de la colonisation. Oui, oui, il faut oser. Là-dessus, Sylvain Sipel a une expression très imagée que je vous laisserai découvrir avec lui dans son livre. Et dans son livre, et je crois que c'est un des titres de son chapitre, et je vous laisserai découvrir avec lui. Mais il n'y a plus de honte. C'est, je veux dire, de la part d'Israël, c'est de fouler le droit au pied, mais de manière complètement éhontée. Et donc, on a lancé depuis maintenant 11 mois ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne pour que les produits des colonies soient interdits en Union européenne. Alors, c'est prendre le sujet par un bout qui suit des produits, mais en fait, c'est dénoncer la colonisation par les moyens légaux qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a effectivement la possibilité de demander à la Commission européenne de les interdire, ces produits, parce que c'est dans les principes même de l'Union européenne et elle doit y être fidèle. Et là, ben, écoutez, on a quelques jours encore hein, pour réunir 1 million de signatures. Et là, vraiment primordial dans ces jours-ci, c'est de signer stopcolonie@fr. C'est très facile, vous tapez stopcolonie.fr, vous allez sur le site. Il y a quelques renseignements à demander, ça c'est parce que c'est une initiative citoyenne européenne, mais ils sont gardés confidentiellement et il faut vraiment signer massivement cette initiative citoyenne européenne.
J'allais vous demander quelles sont les actions à mener, donc il y a notamment le boycott.
Bien sûr que le boycott est une action qui est constante, mais on peut aller plus loin dans un certain nombre de cas. Alors le boycott, j'allais dire que le boycott de produits israéliens, c'est notre action quotidienne. Voilà, j'ai des convictions, j'en veux pas, je n'achète pas, je boycotte. Au-delà, on a des actions plus structurées. Quand on dit on va interdire, on va demander plus exactement, on dit à la Commission européenne, c'est dans les principes de l'Union européenne de ne pas accepter ces produits. Donc vous devez prendre les mesures qu'il faut pour que ces produits n'entrent pas en Europe. Là, on est dans une action qui est beaucoup plus aux racines des choses. On demande effectivement à ceux qui ont le pouvoir de prendre leurs responsabilités et on le fait avec force. Et si on est suffisamment nombreux, on réussit et on a des résultats. L'autre exemple que je veux donner, c'est par rapport à Carrefour. Alors Carrefour a osé, il y a à peu près un petit peu moins d'un an, signer un accord de franchise avec des chaînes de commerciales israéliennes qui sont dans des groupes qui sont totalement liés à la colonisation et qui elles-mêmes ont des magasins dans les colonies. Ils n'ont pas eu honte de faire ça. Et là, on a des actions pour leur demander d'arrêter de sortir de cet accord. On est sur cette action-là dans une grande coalition où il y a la CGT, la CFDT, Solidaire, la plateforme française des ONG pour la Palestine. On est tous ensemble pour dire non, attendez, arrêtez de faire ça. Et donc, c'est à la fois des demandes qu'on fait à la direction de Carrefour et des actions qu'on fait devant les magasins. Et là, donc, c'est pas... là aussi, c'est on vous demande, en tant qu'entreprise, d'être cohérent avec vos choix et de refuser ça. Et donc, on est là-dessus dans des actions. On va faire une semaine d'action début mars, partout en France. On va se mobiliser pour que Carrefour sorte de cet accord. Et si on arrive, comme on a pu le faire avec Orange, à ce que Carrefour sorte de son accord avec cette société israélienne, eh bien, ça sera une vraie victoire. Donc, il faut vraiment y aller là aussi. Après, il y a plein de choses à faire. Hein. On va avoir au fil du temps le soutien à la résistance populaire, le soutien aux prisonniers et tout un ensemble d'actions qui sont hyper importantes. Et puis faire connaître la Palestine. Je crois ce que vous faites là le week-end prochain de faire connaître la culture palestinienne à travers son artisanat, sa cuisine, etc. Je pense que c'est très important parce que le côté humain, il est hyper important dans notre mobilisation. On se mobilise aussi pour des gens comme nous qui subissent une injustice historique insupportable.
Merci d'avoir rappelé ces différentes actions à mener avec ces derniers exemples et notamment Carrefour contre qui... Disons que c'est la dernière campagne en cours à boycotter.
Une campagne dans laquelle il faut s'engager, il faut y aller avec en tant que militant pour la Palestine, mais aussi avec tous les militants pour le droit qui disent non, c'est pas possible qu'une société française elle aille comme ça s'allier avec des sociétés qui violent ouvertement le droit et qui s'implantent dans les colonies.
Et quel serait votre conseil pour ceux qui seraient encore indécis face à la situation ?
Alors bon, il y a un conseil le tout premier conseil, c'est d'aller voir. ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, aller en Palestine, à certaines périodes, les billets d'avion ne sont pas si chers. Il faut passer par Israël, mais en étant bien préparé, on y arrive. Il n'y a pas de... Il faut être... en général, on prévoit un peu de préparation des personnes qui vont partir là-bas. Mais l'expérience, y aller en groupe, c'est encore mieux parce qu'on prépare des rencontres avec les Palestiniens eux-mêmes. Y aller là-bas, c'est le choc de voir la situation. On a beau parler du mur, quand on est devant le mur, c'est juste pas possible. Quand on voit la manière dont les Palestiniens sont traités par l'armée israélienne, c'est juste pas possible. Et quand on voit la qualité d'accueil des Palestiniens, leur humanité, leur optimisme, malgré tout ce qu'ils subissent, on se dit, oui, ça vaut le coup de se battre pour ces gens-là. Donc ça, c'est la toute première chose. Et c'est pas si compliqué que ça peut en avoir l'air quand on n'y est pas encore allé. Une fois qu'on est arrivé là-bas, il faut faire attention de quelques précautions pour pas se faire repérer, arrêter à l'arrivée. Et puis, il faut également mais après, je veux dire, pour des étrangers, circuler d'un point à un autre n'est pas très compliqué. Donc, il faut aller voir. L'autre point, c'est quelques évidences. Mais qui est-ce qui veut la paix, qui est-ce qui veut pas la paix, etc. Écoutez, la colonisation, je crois que si on a le moindre doute, la communauté internationale a demandé aux Palestiniens d'aller finalement vers un accord avec les Israéliens pour renoncer à toute une partie de leur territoire, de garder que 22% de la Palestine historique pour avoir un État. Et finalement, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que ce territoire, il est totalement colonisé par Israël. Donc, c'est juste cette évidence, le fait complètement inhumain, insupportable, de voir des gens chassés de leur maison pour mettre d'autres personnes à leur place, là encore, quand on va voir sur place ce qui se passe à Hébron, où les gens sont littéralement chassés de leur appartement par des gens qui s'installent au-dessus d'eux pour les faire partir. Voilà, c'est juste insupportable. Et je pense que quelques points comme ça sont de telles évidences que tout le reste va avec. Alors, il y a aussi peut-être une autre hésitation qui est « Oui, mais à quoi bon? On n'y arrivera pas, ils sont trop puissants, etc. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on peut gagner des batailles, et on gagne des batailles parce qu'on n'est pas seul et parce qu'on a des politiques d'alliance qui sont fortes. Et puis, dernier point, les limitations à l'expression sur la Palestine sont de la pure intimidation. Nous avons gagné toutes les actions en justice sur ce sujet-là, toutes, et notamment la plus importante d'entre elles, la Cour européenne des droits de l'homme, qui reconnaît absolument le droit d'appeler au boycott, si on considère qu'on doit appeler au boycott, pour des raisons politiques. Ce qui est interdit en France, c'est l'appel à la haine et à la violence. Ça, on avait compris, mais on n'a pas besoin qu'on nous le dise. On n'appelle pas à la haine et à la violence, point final. Donc, en s'engageant, si vous voulez, on s'engage... Alors, on s'engage pour les Palestiniens parce qu'ils méritent qu'on s'engage pour eux. Mais on s'engage aussi, d'une manière générale, pour un combat pour la justice. C'est-à-dire que on voit... que cette question est emblématique parce que derrière, il y a en fait des conceptions du monde, des conceptions de la vie qui sont juste pas possibles. Les Palestiniens, ils se battent aussi pour nous, c'est-à-dire que si on ne veut pas de ce monde où quelqu'un peut prendre le « je suis plus fort que toi, je te prends ton territoire », point final, si on ne veut pas de cette suprématie « je suis un peuple supérieur au tien, donc je te prends ton territoire », si on ne veut pas de tout ça, c'est vrai d'une manière très générale et ça vaut le coup de se battre pour soutenir les Palestiniens qui se battent aussi pour nous.
Merci pour tous ces rappels. On va écouter le deuxième titre que vous avez choisi. Il s'agit du groupe Dame et la musique Born Here.
Alors, très différent du précédent.
זוהי יונת צייד, הדרך הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית בוא נעשה משהו אופטימי יותר הרי כל יום אני מתעורר רואה איזה אלף שוטר אולי הם בואו לעצור סוחר הוא פה או לא, הם באו
קשה לו ומי יענה לו לאן ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי עברתי על החוק לא לא החוק עבר עליי
די 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 רבותיי
כאן נולדתי כאן נולדו גם סבותיי לא תקטו אותי משורשיי
לא תקטו אותי משורשיי
תבין דמי יש לי אמונה במשטרה אם תרצו אין זו אגדה עוד לא השארתם מי לבנות מפסת לעמוד עליה ולבטא אותה
מים לא חריפים חג'ורי
וכאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רק לחפור עוד רכבת דריסה בשיר הזה אין צנזורה, יש גדר ביוף מסילה קרא לי זה ארכיטקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הזבנים שאמרתי רק נהיה להם קול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבל סבוך מדי זה לא גזענות, זאת ציונות די, זה לא בורות, זה רק התחפרות בבורות
מה אם לא חריף נחשור
בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא בין שליל לבין נרצבי וטענת עירייה שהכל שם על החוקי השנייה שנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים
מוקפת בביוף
גן ילדים
מוקף בביוף
אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה כי לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים
על מקסימום אדמה
מינימום ערבים
על מינימום אדמה
הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק
מה אם לא חריף נחשור
Merci pour ce titre également. Alors, je voulais vous demander également pourquoi adhérer à la FPS et ses branches locales.
Tout simplement pour pas être seul déjà, parce que je pense qu'on est devant une action qui est très importante, qui renvoie quand même à une connaissance de la situation qu'il faut avoir, qu'on ne peut avoir qu'en progressant ensemble. Parce qu'on a besoin de se conforter les uns les autres, parce que on est efficace que quand on est nombreux. Après, pourquoi une grande organisation au niveau national organisée comme ça en groupes locaux? Alors les groupes locaux, ça nous permet d'intervenir au plus près du terrain et dans une très grande autonomie. Pourquoi une grande organisation au niveau national? Ben, écoutez, je vais vous donner l'exemple de la campagne Carrefour. Quand on a appris que Carrefour avait décidé plutôt cette alliance avec cette société israélienne. On a été alerté par la presse, en lisant donc certains organes de presse, et la première chose à faire, c'était évidemment d'enquêter, de comprendre ce qui se passait, d'étudier le dossier, de créer une alliance autour de ça pour ne pas se retrouver seul, donc d'embarquer les syndicats avec nous, d'écrire et de sortir un rapport et de faire connaître à la presse, comme on l'a fait, je crois, début novembre. Donc tout ça, ça a été quelque chose qui a été une action très importante et qui nous a permis, effectivement, que les syndicats soient complètement à nos côtés dans cette affaire-là. On travaille complètement ensemble, donc d'avoir cette force. d'aller rencontrer la direction de Carrefour et pour leur dire que pourquoi on n'acceptait pas, on ne supportait pas. Je peux vous dire que le jour où on a sorti le rapport, la direction nous proposait qu'on vienne les rencontrer. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quand on est suffisamment nombreux, suffisamment fort, on est pris au sérieux, ce qui ne veut pas dire qu'on a encore gagné, hein. Il y a encore beaucoup de travail. Et si on veut gagner une bataille comme ça, il faut effectivement construire. Et maintenant, quand vous allez aller ensemble, par exemple début mars, devant un magasin Carrefour, distribuer des cartes à faire signer, distribuer des tracts, montrer ce qui se passe, avoir une banderole, etc. Bah, tout ça, ça s'est construit. Et c'est vrai qu'on est plus fort ensemble pour construire tout ça, parce que c'est toute une campagne, c'est toute une stratégie, c'est tout un ensemble de communication, c'est toute une enquête qu'il y a avant qu'on a faite. Et c'est comme ça qu'on est efficace ensemble. Donc si vous voulez, sur cet exemple très concret, c'est aussi ça illustre comme c'est important de se trouver dans une grande organisation qui a à la fois son échelon local et toute son autonomie et une organisation nationale qui a la force, la puissance d'organiser des choses et de conclure des alliances fortes avec des partenaires. C'est un peu ça que je dirais. Pourquoi la FPS ? En fait, dans certains pays, l'organisation est plus dispersée. Bon, si vous voulez, si on prend par exemple en Europe, notre organisation ressemble beaucoup. On a trois organisations qui se ressemblent beaucoup, qui sont nos amis belges de l'association belgo-palestinienne, nos amis anglais de la campagne Solidarité avec la Palestine et nous-mêmes, avec une organisation nationale forte et des branches locales qui travaillent bien main dans la main. Dans d'autres pays, les organisations sont plus dispersées, sans véritablement d'organisation nationale. Je pense qu'on perd de l'efficacité. Donc on est plutôt fiers d'avoir réussi à créer ce mouvement qui a cette force, hein, qui a lui-même été créé en 2001 par la fusion de deux organisations qui travaillaient pour la Palestine depuis longtemps, d'avoir créé toutes ces alliances autour, de travailler avec plein de partenaires et d'arriver effectivement à avoir des actions fortes pour peser sur la situation et remporter des victoires. Parce que ce qu'on veut, c'est pas seulement témoigner, ce qu'on veut, c'est d'avoir des victoires, voilà, on n'est pas là pour dire on est des victimes par rapport à toutes ces personnes inconditionnelles d'Israël qui défendent Israël. Non, on doit montrer qu'on est plus fort. Et si on veut montrer qu'on est plus fort, bah, il faut être unis et dans une grande organisation.
Et quelles sont les nouvelles qui vous rendent optimiste pour la Palestine ?
Alors, je vous ai parlé de beaucoup de nouvelles qui peuvent nous rendre inquiets, en tout cas. Hein. Pessimiste, je ne sais pas, mais inquiets. Parce que la situation est inquiétante. Ce qui peut se passer cette année peut être très grave. Donc là, je ne parle pas de pessimisme ou d'optimisme, je parle d'inquiétude. Après, pour ce qui est d'être optimiste, je dirais d'abord, c'est que les Palestiniens existent et résistent. Pour eux, exister, continuer à mener leur vie, à produire, à envoyer leurs enfants à l'école, être un peuple bien éduqué, qui a un niveau d'éducation très élevé, à pouvoir continuer à financer les études supérieures, avoir une médecine qui est à la hauteur, tout ça, c'est ce qu'arrive à faire le peuple palestinien dans des situations qui sont juste incroyables pour nous. Et ça, le fait qu'il arrive à tenir, c'est pour nous vraiment un signal d'optimisme qui est important, mais c'est aussi quelque chose qui nous oblige. C'est-à-dire, eux, ils tiennent chez eux, nous, on doit les aider, parce que sans ça, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls, s'ils ne sont pas soutenus de l'extérieur. Enfin, ils y arrivent par eux-mêmes, tout seuls, bien sûr, mais je veux dire, cette résistance qu'ils arrivent à avoir chez eux, elle doit être soutenue de l'extérieur. C'est cette position, cette attitude du peuple palestinien qui est à la fois très courageuse, très positive, qui tient, qui nous rend optimistes parce que c'est quelque chose qui tient dans la durée, malgré tout ce qu'ils subissent. Mais il faut quand même, on doit absolument les soutenir par rapport à ça. D'autres choses qui me rendent optimiste, et vous pourrez très certainement en discuter avec Sylvain Sipel la semaine prochaine, c'est les craquements dans des soutiens à Israël, notamment aux États-Unis. La communauté juive des États-Unis était à 100% pour Israël il y a quelques années. Aujourd'hui, elle craque de tous les côtés. Les jeunes États-Uniens juifs sont en majorité pas du tout d'accord avec la politique israélienne. En France, on est plus dans la caricature, mais bon, ça va finir par bouger. Et je dirais que il y a une sympathie pour la cause palestinienne qui est très largement partagée. Là où il faut qu'on arrive à collectivement progresser, c'est que cette sympathie puisse se traduire par vraiment de l'action, et on y va et on s'engage. Vous savez, quand on est sur les marchés, que des personnes viennent nous voir et nous disent « Oh, c'est bien ce que vous faites », on leur dit « Merci, mais allez, à votre tour, engagez-vous avec nous ». Et on sent bien qu'il y a ce potentiel de sympathie pour la cause palestinienne dans notre pays, qui est très majoritaire. Et donc, c'est là-dessus, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous appuie, c'est là-dessus que nous nous appuyons. Et par contre, il faut effectivement qu'on arrive à approfondir l'envie de tout le monde d'agir et d'agir ensemble pour mettre fin à cette situation qui est complètement inacceptable.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Salah Amouri, l'avocat franco-palestinien ?
Alors Salah Amouri, vous savez, hein, il a été un avocat franco-palestinien qui a été emprisonné de longues années par Israël sur des accusations complètement fantaisistes, qui a été déchu de sa citoyenneté de citoyen palestinien de Jérusalem, puis expulsé au mois de décembre. Donc il est victime d'un système israélien absolument impitoyable qui ne supporte pas qu'on puisse s'opposer à lui. Il est lui-même et il lui-même représente donc plusieurs causes. C'est-à-dire que déjà, il est palestinien de Jérusalem. En tant que palestinien de Jérusalem, avec une famille qui est depuis des générations par son père à Jérusalem, il a moins de droits que l'immigrant russe qui s'est découvert juif et qui arrive à Jérusalem il y a 8 jours. Donc ça, c'est la situation. C'est cette situation d'apartheid où effectivement les Palestiniens de Jérusalem illégalement annexée, n'ont qu'une carte de résidence. Et maintenant, le gouvernement israélien qui peut leur enlever cette carte de résidence de manière complètement arbitraire pour défaut d'allégeance. Il est aussi avocat auprès d'une grande ONG palestinienne qui a Damir, qui défend les prisonniers palestiniens, donc qui est violemment attaqué par Israël, qui déclare ces organisations terroristes, ce qui est de toute façon pour les Israéliens, tout ce qui est palestinien est terroriste, mais quand même, c'est quand même particulièrement grave, parce qu'ils sont venus dévaster les locaux de ces organisations et les menacer, les fermer en août dernier. Et donc déjà, par rapport à ça, Salah Amouri représente beaucoup de choses. Quand il est arrivé en France après son expulsion en décembre, la sympathie a été générale, y compris dans la presse française. Mais aujourd'hui, il est victime d'une attaque concertée, de dénigrement, il est insulté en fait par les partisans inconditionnels d'Israël. Et ce qui est particulièrement grave, c'est que le ministre de l'Intérieur, Darmanin, en a rajouté à l'Assemblée nationale sur Salah Amouri, qu'on veut le faire taire en France, hein, qu'une conférence à laquelle il devait participer à Lyon a dû être annulée, tellement les menaces, les intimidations étaient fortes contre les organisateurs de cette conférence. Et donc, il va être aussi le symbole de notre action pour la liberté d'expression en France, parce qu'il est hors de question de se laisser intimider par ces inconditionnels de la politique israélienne. Darmanin s'est complètement déshonoré en disant ce qu'il a dit par rapport à Salah Amouri. Il a d'ailleurs contredit tout ce qui était la position de la France, qui avait condamné l'expulsion de Salah Amouri par Israël. Donc, voilà, c'est Salah Hamouri, il est palestinien, il est français, il représente tout ce que subissent les Palestiniens, il est aussi là pour montrer tout ce qu'on a le droit de dire en France, en tant que Français et en tant que Palestinien, et donc, ben, bien sûr, il a tout notre soutien, il faut bien sûr qu'on arrive à gagner, et en France, sa liberté d'expression, et en Israël, son droit à revenir à Jérusalem, vivre avec sa femme et ses enfants.
Très bien. Merci beaucoup, Bertrand Heilbronn. Merci pour votre présence et pour tous ces éclairages. À bientôt.
Merci de votre invitation.
Avec plaisir. Et
à bientôt.
تشردوا لأجل أطفالنا وسقط العدل على المداخل
ظهر العدل ظهر العدل
هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب الطفل في المغارة من كل طريق بجياد الرهبة وكوجه الله الغامر لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد بهاء القدس بأيدينا للقدس سلام
بأيدينا للقدس سلام
بأيدينا للقدس سلام
Shut up.